Santé pour tous. Santé pour tous. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix. Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
La prise en charge du VIH-Sida est caractérisée par une mobilisation sans précédent d'acteurs au-delà de ceux qui interviennent traditionnellement dans la lutte contre les maladies, avec une prédominance due au rôle joué par les institutions internationales que sont l'OMS, l'UNICEF, le FMI et la Banque mondiale. Cette diversité d'acteurs a conduit de nombreux États en Afrique subsaharienne notamment à mettre en place des programmes de lutte multisectoriels et décentralisés. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où l'on distingue plusieurs niveaux d'intervention, niveau ministériel et institutionnel, régional, départemental, communal et villageoise, avec des rôles spécifiques définis pour chaque niveau. Aujourd'hui, il va s'agir dans ce temps d'antenne de décrire en quoi consistent les soins et soutiens du VIH-Sida, de décrire le but des soins et du soutien dans le contexte des lignes directrices de 2016 de l'Organisation mondiale de la santé OMS sur l'utilisation de thérapies antirétrovirales pour le traitement et la prévention des infections à VIH, d'illustrer pourquoi les soins et le soutien sont essentiels parallèlement au traitement du VIH pour réduire le nombre de maladies et décès liés au VIH et ainsi augmenter le bien-être des personnes vivant avec le VIH, y compris les orphelins et enfants vulnérables, les adolescents, les populations clés et les personnes de plus de 50 ans. Dans ce magazine de santé où il est question de soins et soutien, nous sommes en compagnie d'une experte. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer. Santé pour tous, tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolo.
Docteur Mémion Hélène, bonjour. Vous êtes au programme national de lutte contre le VIH et vous êtes en charge des soins et soutiens. Soins palliatifs, soins et soutiens, que savoir?
Les soins palliatifs, c'est la prise en charge des gens atteints de maladies chroniques et incurables. C'est pas que les soins palliatifs n'existent pas, ils existent toujours. Mais on a mis ça dans le cadre des soins et soutiens. Parce qu'en plus des soins palliatifs, il y a tout un ensemble d'éléments qui accompagnent. Donc on a harmonisé toutes nos activités, soins palliatifs, santé positive, dignité, prévention. La prise en charge des infections opportunistes, prévention, pour en faire ce qu'on a appelé les soins et soutiens pour PPVIH. On parle des personnes infectées et affectées par le VIH parce que l'environnement dans lequel gravite le PPVIH, l'orphelin ou l'enfant rendu vulnérable du fait du VIH, elle doit être prise en compte avec sa famille.
Quels sont les soins et soutiens qu'offre la Côte d'Ivoire dans cette lutte contre le VIH-Sida?
La Côte d'Ivoire a mis en place un dispositif national de soins et soutiens avec 8 composantes. Le soutien médical avec des sous-composantes, le soutien psychologique, le soutien spirituel, le soutien social, le soutien économique ou renforcement économique, les soins soutien nutritionnel et alimentaire, le soutien juridique et enfin le soutien à l'éducation et à la mise en apprentissage. Je dois te préciser que sur les 8 soutiens, la dernière est spécifique aux orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH, ça les concerne. Mais dans les autres, ils interviennent aussi dans les autres parce que les soins soutiens prennent en compte les personnes infectées ou affectées, qu'ils soient adultes, enfants, qu'ils soient hommes ou femmes. Ça prend en plus en compte le personnel soignant.
Quel est l'itinéraire préventif des soins et soutiens des personnes ayant le VIH-Sida?
Nous avons dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH un volet prévention et un volet prise en charge. Dans le volet prévention, vous avez par exemple le dépistage, vous avez la prévention de la transmission mère-enfant, etc. Mais dans le volet prise en charge, nous avons les soins et traitements. Les soins et traitements, c'est tout ce qui concerne le volet antirétroviral. Et puis en plus de ça, nous avons les soins soutiens. C'est les soins, d'autres parlent d'accompagnement sur plusieurs plans. C'est les 8 composantes que je vous ai présentées. qui accompagne, en plus du traitement antirétroviral, tout ce qu'il est possible d'apporter pour accompagner le patient afin qu'il se sente mieux. Vous êtes d'accord avec moi que vous donnez des médicaments à quelqu'un qui ne mange pas, qui ne se nourrit pas bien, il va rentrer dans un cercle de malnutrition. Or, la permalnutrition va aggraver le VIH et vice-versa. Un patient qui est dépendant à cause de la maladie qui l'a rendu vulnérable à un état de pauvreté, on l'aide à sortir de ça en lui proposant des activités de renforcement économique pour son autonomisation, mais aussi pour la sécurité alimentaire.
Alors, à quel niveau se situent vos objectifs dans ces soins et soutiens?
C'est de réduire la morbidité, la mortalité et la transmission du VIH. Parce que nous sommes dans le cadre de réduire les nouvelles infections. Bon, si on ne réduit pas la transmission, on aura toujours de nouvelles personnes infectées. Alors qu'on sait que d'ici 2030, la chaîne de contamination doit être cassée. Nous devons être à zéro contamination. Donc ça, c'est important. C'est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de maintenir durablement les patients dans les soins, c'est-à-dire la rétention des patients dans les soins. Si ceux qui sont perdus de vue, il faut aller les rechercher, les réintégrer dans les soins pour qu'ils continuent à prendre leur traitement. Maintenant, l'autre but ultime du traitement, c'est d'arriver à une suppression de la charge virale. Ça, c'est l'élément important qui peut aller avec d'autres éléments. Mais un patient qui a une charge virale supprimée avec d'autres facteurs devient un patient stable qui ne transmet pas la maladie puisque la charge virale est supprimée. Donc, ça diminue la virémie. Donc, on aura moins de nouvelles infections. Et puis, lui-même, il ne va plus se contaminer avec d'autres virus.
Il est aussi question d'une collaboration entre votre programme, la médecine traditionnelle, et les religieux. Alors, dites-nous, quelle est la qualité de ces relations?
Elle est très bonne. La qualité est bonne. Nous avons impliqué les leaders religieux et les praticiens de la médecine traditionnelle dans la réponse nationale au VIH.
Pourquoi les impliquez-vous dans cette lutte?
C'est-à-dire que eux, ils ont d'abord leur travail premier qui est le soutien spirituel aux patients. Mais en plus de ça, nous les avons impliqués pour qu'ils nous aident à mieux prendre en charge ces patients-là. Pour que, par exemple, les aider à faire le dépistage. Quelqu'un qui se retrouve dans un camp de prière, qui ne connaît pas son statut, il ne sait même pas qu'il a le VIH-SIDA, il vient, je suis malade, on prie, mais ça ne finit pas. Mais au moins, si on a une idée de son statut sérologique, s'il est VIH positif, non seulement le leader religieux va faire sa prière ou bien jeûner pour lui, etc., mais il va l'emmener par la collaboration avec les prestataire de santé, à aller prendre son traitement, à faire son suivi, parce qu'il y a un suivi biologique, un suivi de la charge virale, à faire son suivi. Et puis revenir dans son camp de prière, s'il veut rester là-bas pour faire ses prières. Dieu, on dit Dieu guérit. La main de Dieu n'est pas courte. Donc ça, c'est leur spécialité. Mais on a commencé à mettre en place la collaboration avec eux à tous les niveaux, au niveau central.
Docteur, où se donnent les soins et soutiens en Côte d'Ivoire?
Les soins et soutiens se donnent au niveau clinique comme au niveau communautaire ou social. Il y a des soins et soutiens qu'on donne à l'hôpital. Par exemple, quand j'ai parlé du soutien médical, c'est des choses qui se donnent à l'hôpital. Le soutien psychologique, ça se donne à l'hôpital comme dans la communauté. Le soutien spirituel est purement communautaire. Le renforcement économique est communautaire, etc. Donc nous avons des activités de soutien médical et des activités de soutien communautaire et social. Parce que quand je dis social, tous les acteurs sont impliqués à tous les niveaux. Les prestataires de santé, les travailleurs sociaux, les communautaires et même, elles se donnent jusqu'à domicile. C'est pourquoi j'ai parlé de continuum de soins qui peut commencer à l'hôpital jusqu'à domicile ou même dans la communauté, on découvre quelque chose, on l'amène à l'hôpital pour l'aider à aller le plus loin possible. Ce que je peux dire, avec le traitement, avec les soins soutien, nous avons des malades qui sont encore vivants, qui sont sous traitement. Moi, je parle de mon expérience personnelle depuis 98. On est en 2021, ils sont encore vivants, ils vivent bien. La qualité de vie s'est améliorée. Quand vous les voyez, moi-même, je ne les reconnais plus dans la rue, tellement ils ont pris du poids, ils ont grossi. C'est qui me dit, docteur, vous ne me reconnaissez pas, je suis tel malade. J'ai dit, ah, vraiment, vous avez tellement changé que voilà.
Vous avez aussi parlé des 3,95, c'est quoi exactement?
3,95, c'est, on a dit qu'il y a une cascade. Le premier 95, c'est que 95% des patients qui sont dépistés connaissent leur statut. C'est important. Parce qu'on va te faire ton dépistage et puis tu ne connais pas le résultat. Il faut qu'ils connaissent. Maintenant, s'ils connaissent, ils doivent être mis automatiquement sous traitement. Donc, dès qu'il est dépisté, le même jour, si c'est possible, ou bien au moins dans la semaine, parce qu'il faut le préparer à prendre un traitement à longue durée, il faut le préparer à être observant. Donc, il faut le mettre sous traitement et le retenir longtemps dans les soins. Là, on parle du deuxième 90, c'est-à-dire 95% aussi de ceux qui connaissent leur statut sont sous traitement. Parce qu'il peut y avoir des gens ou des contre-indications qui ne seront pas mis sous traitement parce qu'il faut prendre en compte ces contre-indications. Maintenant, s'ils sont sous traitement, si le traitement marche, il faut que la charge virale soit indétectable ou certains disent plus ou moins supprimée. Donc voilà un peu les 3,95.
Quel est l'itinéraire préventif des soins et soutien des personnes ayant le VIH-SIDA?
Les soins et soutien permettent d'accompagner le malade le plus loin possible. Parce qu'en plus du patient lui-même, on prend en charge son environnement. C'est pourquoi nous, on parle en soins et soutien de personnes infectées et affectées par le VIH. Donc, ça les aide à tous les niveaux, que ce soit les personnes vivant avec le VIH, que ce soit leur milieu, que ce soit les orphelins et enfants rendus vulnérables et familles, que ce soit les soignants, parce que les soignants aussi, vous traitez quelqu'un qui ne guérit pas. L'Africain n'a pas la notion de maladie qui tue. Il ne connaît pas les pathologies cliniques. Il faut les éduquer. Il faut les accompagner. Mais le soignant aussi, il accompagne. Il faut que lui aussi soit pris en charge psychologiquement pour ne pas qu'un jour, lui aussi, il jette les éponges. Il faut aussi aider les soignants. Donc, dans cette lutte-là, tout le monde s'entraide. Et le résultat, c'est qu'on a des malades qui sont bien suivis, qui vivent le plus longtemps possible. Moi, j'ai commencé à traiter des gens en 98. On est en 2021. Ils sont encore sous traitement. Ils sont vivants. Ça fait combien d'années? Plus de 20 ans. Ça veut dire que le traitement marche. Si la prise en charge est correcte, si les problèmes de stigmatisation, de rejet sont choses, je pense que le malade va le plus loin possible.
Docteur, vous avez touché un point tout aussi important que les autres concernant justement les enfants, sur lequel je souhaite revenir. Quel est le process?
Oui, c'est seulement les doses pédiatriques. Ils ont leur dose selon l'âge, selon le poids. Donc, c'est une question de dose. On ne peut pas donner une dose adulte à un enfant. On donne une dose à la chose des enfants. On est en train d'essayer d'améliorer pour avoir la disponibilité des deux enfants. Et puis, ils sont mis sous traitement.
Nous sommes à la fin de cet échange. Avez-vous un appel à lancer, docteur?
Allez faire votre test de dépistage. Connaissez votre statut. Quel que soit le statut, la prise en charge existe et vous pourrez aller loin le plus possible. Aujourd'hui, on voit même qu'on a des gens qui sont VIH positifs, qui sont sous traitement, qui se sentent bien. Par rapport à quelqu'un qui a un problème d'insuffisance rénale, il vit le plus longtemps possible. Donc, tout est possible dans le meilleur des mondes.
Merci infiniment, docteur Mémian, pour votre disponibilité.
Santé pour tous. Santé pour tous.
Les soins et le soutien désignent les principaux services cliniques. Or, thérapeutie antirétrovirale, la prévention et le traitement des infections liées au VIH et les services non cliniques qui, combinés à la thérapie antirétrovirale, peut réduire le taux de maladies et de décès liés au VIH parmi les personnes vivant avec le VIH en augmentant leur bien-être. Les soins et le soutien sont importants pour les raisons suivantes. D'abord, il s'agit, selon le docteur Mémian Hélène du Programme national de lutte contre le sida, de faciliter un accès immédiat au traitement lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de VIH, soutenir l'adhésion au traitement afin d'obtenir la suppression virale des personnes vivant avec le VIH pour leur propre santé et pour éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes, de renforcer la prévention et la gestion des infections liées au VIH et enfin d'améliorer la réaction face aux défis de la vie avec le VIH. Pour obtenir une suppression virale durable, l'adoption et l'adhésion au traitement du VIH doivent être améliorées. Dans ce but, les personnes auront besoin de conseils et de tests améliorés et de voies efficaces pour entamer le traitement VIH de manière précoce. Fin de Santé pour tous. Merci et à bientôt.